Mais avant ça, à 8h30, c'est l'heure de retrouver la revue de presse internationale. Avec vous, Ezequiel Fernandez, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Et ce matin, le nom du successeur du Mollah Omar à la tête des talibans est désormais connu.
Oui, il s'agit d'Akhtar Mansour, considéré comme le bras droit du Mollah Omar. Les rebelles islamistes afghans ont confirmé sa nomination par le conseil de direction. Le journal pakistanais Daily Times précise que l'élection a eu lieu mercredi soir lors de la Shura, la réunion des chefs de la rébellion au Pakistan, et qu'Akhtar Mansour a été désigné à l'unanimité. Lorsque les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan, entre 1996 et 2001, le Mollah Mansour était ministre alors de l'aviation civile. La Shura a désigné comme adjoint Siraj Haqqani. Et c'est très important à retenir, selon le Daily Times, il est le leader de la faction éponyme et représente une branche influente particulièrement active dans le combat contre les forces afghanes et américaines. Emmanuel Derville, dans les colonnes du Figaro, évoque les divisions au sein de la rébellion talibane et rappelle que le Mollah Mansour est favorable au pourparlers de paix avec le gouvernement de Kaboul. Il devra, dit-il, maintenir l'unité du groupe et convaincre les opposants au processus de ne pas faire sécession. Parmi ses opposants, les plus farouches, Abdul Zakir, dont l'International New York Times esquisse le portrait. Ancien chef militaire de l'organisation, ex-détenu de Guantanamo, il commande un vaste réseau taliban dans la province de Helmand, où se sont déroulées quelques-unes des plus sanglantes batailles contre les forces de Kaboul. La question est donc de savoir si les factions les plus dures des talibans vont faire allégeance au nouveau chef ou bien se désengager du serment de fidélité qui les liait au Mollah Omar. La faction Haqqani aurait déjà fait savoir qu'elle ne reconnaîtrait comme nouveau leader que le propre fils du Mollah Omar, Yacoub. Il ne faut pas oublier non plus le rôle de l'État islamique qui a créé sa propre province en Afghanistan, c'est Guido Olimpio qui l'écrit dans le Corriere della Sera. Les experts de la région n'excluent pas que Daesh profite de ces divisions en attirant des factions talibanes. C'est peut-être une coïncidence, écrit-il encore, mais une double attaque de drones américains vient de surprendre justement une colonne de l'État islamique dans un secteur de l'Afghanistan proche du Pakistan.
Et dans ce contexte plus qu'incertain, Ezequiel, les pourparlers de paix entre les talibans et Kaboul sont suspendus.
Une nouvelle réunion de négociation devait avoir lieu aujourd'hui au Pakistan. Elle a été repoussée, sine die. Le Figaro cite le communiqué du bureau politique taliban. Les médias affirment que des pourparlers de paix auront lieu bientôt avec le régime de Kaboul. Le bureau politique n'a aucune connaissance de ces discussions. Fermez le banc. Ce communiqué émane de l'office de représentation des talibans au Qatar, connu en effet pour être opposé au processus de paix parce qu'il est parrainé par le Pakistan. Beaucoup voient d'ailleurs dans la confirmation de la mort du Mollah Omar un mauvais signe dans le processus de paix. Qu'elle intervienne la veille de la date prévue d'une nouvelle réunion pourrait ne rien devoir au hasard. La coïncidence est plus que troublante, selon l'ancien diplomate Georges Lefebvre, cité par Libération, alors que pour la première fois, des négociations sérieuses ont été entamées au début de ce mois au Pakistan, entre représentants des talibans, du gouvernement de Kaboul, et cela sous l'égide des États-Unis et de la Chine.
La presse internationale revient également ce matin sur la figure et le parcours hors norme du Mollah Omar.
Jusque dans la mort, il aura préservé le mystère, puisqu'on ne sait pas précisément ni quand ni où, il serait passé de vie à trépas, dans un hôpital pakistanais, peut-être, il y a 2 ans de cela, alors que les talibans affirment qu'il n'est jamais sorti du territoire afghan. Un véritable homme invisible à partir de 2001, quand il est chassé de Kaboul par les Américains qui ont débarqué en réponse aux attentats du 11 septembre. Le Monde raconte son parcours et ce moment de 1996 quand il se drape dans une cape qui aurait été porté par le prophète Mahomet et qu'il se proclame commandeur des croyants. 2 ans plus tard, il commet l'erreur qui lui sera fatale. Il accueille Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, qui vient d'être chassé du Soudan. Le 11 septembre 2001, le monde bascule, comme l'écrit Luc Mathieu dans Libération. Les États-Unis attaquent et le Mollah Omar doit fuir, sans doute au Pakistan. Mais son pouvoir de nuisance reste entier. L'insurrection talibane a fait depuis des dizaines de milliers de morts et ces derniers temps encore, conclut l'article du Monde, elle a engrangé des succès militaires dans les provinces du Nord. Alors que reste-t-il de la folie islamiste pilotée par le Mollah Omar? Adam Taylor répond à cette question dans le Washington Post. Un article intitulé « Ce que Mohammad Omar a pris à l'Afghanistan et qui ne pourra jamais être restitué ». Omar a peut-être façonné l'histoire, écrit-il, mais il l'a aussi, en un sens, détruite, en jouant un rôle déterminant dans l'un des forfaits les plus choquants commis par les talibans. La destruction des statues de Bouddha de Bamiyan, 3 statues érigées entre le 3e et le 7e siècle sur l'ancienne route de la soie qui traversait l'Afghanistan. La plus grande mesurait 53 mètres de haut. Le Mollah Omar a ordonné la destruction en mars 2001 de ces idoles qui avaient été des dieux pour les infidèles. Aujourd'hui, conclut Adam Taylor, les caves de Bamiyan abritent des Afghans qui qui n'ont plus de toit à cause de décennies de guerre et de chaos. Une autre trace de l'héritage laissé par Omar en Afghanistan.
C'était la revue de presse internationale d'Ezekiel Fernandez que vous pouvez retrouver comme chaque jour sur le site des Matins d'été sur franceculture.fr.